Bonjour à tous, bonjour Hélène.
Hello.
On se retrouve aujourd'hui pour faire un épisode, eh bien tout simplement best-of de ce qui s'est passé de l'année. C'est un épisode qu'on n'a pas forcément beaucoup préparé qui va se passer un peu en mode apéro. Je sais pas ce que t'en dis Hélène, mais l'idée ça va être de parler des news importantes de l'année 2023, un peu en mode café du commerce.
Incroyable. J'adore, on fait comme ça.
Ça te va?
Ouais.
Super.
Parfait.
Génial. Je te propose qu'on commence tout simplement par l'un des plus grands booms que la K-pop ait connu mondialement, qui s'est passé dans la première moitié de l'année. À savoir 50-50.
Quelle histoire!
Le titre Cupid, qui est vraiment moi, un des titres que j'ai préféré cette année personnellement. Est-ce que t'aimes bien 50-50?
J'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas. Moi, 50-50, en fait, j'ai surtout suivi parce qu'il y a eu un genre de drama, mais de dinguerie, en fait, autour de ce groupe.
Ah, mais on en parlera après, ça, justement.
Et,
ouais.
et finalement, en fait, les dingueries qui sont arrivées cette année sur eux, en fait, c'est passé au-delà de la musique, qui est pas mal, hein, pour de vrai. Mais il y a eu tellement des dingueries, il y en a tous les mois, c'est terrible, quoi, c'est terrible.
Il y en a toutes les semaines, mais c'est un enfer. Un jour, je pense que je ferai un épisode sur 50-50, et j'essaierai d'expliquer au mieux, même si c'est très compliqué et qu'il y a beaucoup de choses qui changent chaque semaine.
Mais ouais, le feu de l'amour.
Mais c'est pire, vraiment, c'est ça. Et en fait, moi, 50-50, c'est ma pote Lou, tu sais, qui m'a initié à la K-pop, qui m'a conseillé d'écouter. Au début, je voulais pas trop tout ça, parce que je lui dis, mais non, et tout, dans les autres agences de JYP, c'est drama sur drama, ça me saoule. Elle m'a dit, mais non, tu verras, elles sont trop mignonnes, elles sont toutes jeunes et tout. Ça va bien se passer, t'inquiète.
Ça va bien se passer, merci, tu pars, la JYP, c'est la plage à côté, hein. Laisse tomber.
Merci Lou. Et du coup, en vrai, j'ai écouté du coup 50-50 en boucle, vraiment. Cupid, je la trouve merveilleuse. Et c'est surtout une des rares, je trouve, musiques de K-pop qui a une version anglaise aussi bien que la version originale. Et ça arrive jamais, ça. Vraiment, je...
C'est vrai que c'est rare. C'est rare. Je crois pas avoir, moi, d'équivalent. Je me souviens qu'il existe une version anglaise d'une musique de Stray Kids qui est celle de Domino, je crois. Qui est pas mal, en vrai. Mais c'est assez rare que la version anglaise soit aussi bien que l'original. Autant... On a tous des préférés sur quand ils font des versions de celles en japonais et en coréen.
Ouais.
Il y a des préférences, ça sonne pas pareil, mais tu sens qu'il y a vraiment une autre dynamique qui se met en place. C'est, limite, c'est pas la même chanson, en fait. La version anglaise, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, la plupart du temps, ils prononcent très mal, en plus, parce que tu sens que l'anglais, c'est vraiment pas leur truc.
Ouais, ça me rappelle... c'était quand? C'était il y a un an ou deux. JYP avait fait une version anglaise d'une musique de Nijiu. Où les pauvres, elles galéraient à chanter en anglais,
oui.
Tu vois, parce qu'il n'y en a que deux qui savent parler anglais dans le groupe. Et j'étais là, je crois que c'était... je sais plus quel titre c'était. Mais vraiment, je m'étais énervé, j'avais envoyé des messages à Lou en disant « Putain, mais ils font chier à vouloir nous faire des versions anglaises de musique alors que les gamines, elles savent pas chanter en anglais, enfin, elles savent pas parler anglais.
Ouais.
Laissez-les, enfin, les emmerdez pas avec ça, quoi, on n'a pas besoin de ça. Surtout que... Enfin, moi c'est pareil, mais en fait, les chansons anglaises de qui existent déjà, tu sais, en fait, elles vont pas m'intéresser. Et c'était un peu une déception que j'avais au concert de Twice, c'est qu'elles ont chanté Set Me Free en anglais.
D'accord.
Et je la connaissais pas. Je connaissais la version coréenne presque par cœur, mais en anglais, je connaissais pas. Et du coup, j'avais un peu l'air d'un con en mode, ah ouais, mais c'est pas ça que ça dit normalement dans la chanson, tu vois.
Ouais,
et,
bah ouais. Mais en fait, ils veulent s'exporter avec l'anglais, quoi, sauf qu'en fait, il n'y a pas besoin. Ils n'ont pas eu besoin de ça.
Bah non, ou alors tu fais une musique entièrement en anglais, tu vois. Mm. Mais tu ne fais pas plusieurs versions d'une seule, enfin, d'une même musique. Mais ça, c'est parce qu'ils font ça, je pense. Parce qu'au Japon et en Corée, ça marche comme ça. Les Japonais, ils n'écoutent pas les versions coréennes. Mm.
Ouais.
Les Coréens, ils n'écoutent pas les versions japonaises.
Ouais.
Du coup, ils se disent, bah, à l'international, ils vont écouter les versions anglaises, tu vois. Mais non.
Bah non, parce que sinon on n'achèterait pas vos trucs déjà à la base.
Bah ouais, c'est clair.
En même temps, En même temps, je pense qu'il y a très peu de gens qui écoutent de la K-pop juste pour la musique.
C'est-à-dire...
Allez, la hot take à 5 minutes d'épisode.
C'est-à-dire
clairement, la plupart des gens écoutent de la K-pop pour tout ce qu'il y a autour, pour le cul des idoles, évidemment. C'est essentiel. C'est essentiel, nous avons des passions primaires et normales, tout à fait,
On a atteint le point Q à 5 minutes d'épisode.
Écoute, c'est l'épisode parfait. De fin d'année, je fais ce que je veux. En plus, c'est moi qui le monte. Je fais ce que je veux. Non, plus sérieusement, la K-pop, on sait très bien, toi et moi, après tous les épisodes qu'on a fait ensemble, que ce n'est pas que de la musique. Il y a tout un univers, il y a un tas d'épisodes, d'émissions annexes qui sortent, il y a tout un lore pour certains groupes. Il est très rare, en fait, que les gens écoutent de la K-pop juste pour la musique. C'était peut-être le cas à l'époque de la première, de la deuxième génération. Et après, quand BTS, Psy, etc. ont explosé, c'est vraiment devenu tout un univers. Quand tu rentres dans la K-pop, tu te préoccupes de la vie des gens, parce qu'en fait, on te tabasse tellement avec des informations sur la vie plus ou moins privée, en tout cas staged, privée des idoles, que tu t'intéresses à leur personnalité, tu t'intéresses à leur tronche, évidemment, parce que c'est fait pour... Tu t'intéresses aux émissions qu'il faut à côté, après t'as les side projects, etc. La K-pop, c'est pas que de la musique. Si c'était que de la musique, ça prendrait pas autant d'ampleur, c'est pas possible.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'écoute beaucoup de K-pop sur Spotify et tout, tu vois. Mais c'est vrai que regarder un MV, c'est pas pareil.
Bah non.
Je dis pas ça que pour le cul de Félix, tu vois. Mais parce que c'est vraiment... c'est quelque chose de très esthétique, en fait.
Bah,
que ce
oui.
soit musicalement et aussi... visuellement, plastiquement, quoi.
Oui, tout à fait. C'est toute une ligne éditoriale, une démarche artistique qui est mise en place, que ce soit par les MV, que ce soit par les émissions annexes, que ce soit par les photos. Enfin, les vraiment fans hardcore de K-pop collectionnent les photocards comme on collectionnait les cartes Pokémon il y a 20 ans, en fait. Tu vois.
Ouais.
Et il faut avoir la version de machin, de la même manière que quand on collectionnait les cartes Pokémon, il fallait la version qui brille, la version de collecteur de ci, la collection de ça, c'est... K-pop is the new card magic, en fait. C'est concrètement, c'est... Peut-être pas à ce point, mais... On en est à un niveau de fan attitude où il y a des fans aujourd'hui qui achètent toutes les versions des albums pour avoir toutes les photocards, pour avoir tout... Il y a une idée de collection... de l'objet de qui va avec ce culte de la beauté qui est celui de la K-pop et qui va bien bien au-delà de la musique. Les awards qu'il y a chaque année, enfin il y en a plusieurs, et qui se basent pour classer les groupes de K-pop sur les streams, ce sont pas des streams naturels, si je puis dire. C'est des streams qui sont faits par des robots, etc. C'est des gens qui streament en boucle, c'est fait par des entités d'intelligence artificielle. Il y a en fait, c'est admis que la K-pop, c'est quelque chose de très esthétisé, de très artificiel. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, c'est admis. Et les gens se disent, ok, c'est un monde irréel, c'est un monde imaginaire. De la même manière qu'il y en a qui sont fans de jeux vidéo ou de telle ou telle franchise de cinéma, en fait. Tu vois, c'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est admis que c'est un autre monde imaginaire où rien n'est réel, où on est fan d'idoles de K-pop qui sont en fait des personnages et qui sauront jamais qu'on existe et... Pas grave, c'est très bien comme ça, en fait.
Parfait.
Je suis parti dans le deep, là.
Non, mais il faut, t'as raison.
Je t'ai dit, putain, je suis crevée, on y va, tranquille. Et en fait, c'est parti en deep tout de suite. Oh là là, je suis désolée.
Non, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de discussion dans des émissions comme celle-ci, parce que ça nous permet un peu voilà, de balancer tout un tas de réflexions qui n'ont pas forcément la place ailleurs dans d'autres émissions qu'on peut faire. Donc c'est l'occasion, vraiment vite ton sac.
Je vide mon sac.
Est-ce que t'as acheté cette année des albums de K-pop? Est-ce que t'as déjà acheté des albums de K-pop?
Alors non, pas du tout, parce que je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est.
Ouais, ça coûte cher, hein, ouais.
C'est très très cher pour ce que c'est,
ouais.
Et je réfléchis, mais je crois pas. Non, parce que mine de rien, c'est des objets qui sont extrêmement chers. Et en fait, j'ai une Fnac à côté de chez moi qui a un rayon K-pop qui ne cesse de s'agrandir, donc c'est très très cool. Mais effectivement, il n'y a pas trop les groupes que j'écoute. Et la plupart du temps, ce qui est vendu, notamment dans les Fnac, c'est vraiment les objets. C'est, des fois, c'est même pas le CD. Des fois, t'as même pas le CD dedans. Ça, c'est des trucs, genre des petits bouquins, genre des cartes, genre des... Voilà, c'est des objets, en fait. C'est des vrais objets de collection plus que des objets musicaux. Et les CD... Non, je crois que même pour ma compagne, cette année, j'ai pas acheté de CD de K-pop, tu vois. Donc, non, et toi, t'en achètes ?
Non, pas encore. Justement, là, j'ai hésité. J'avais envie de m'acheter l'album de One Pact, là, qui est sorti il y a une semaine. Non, 2 semaines maintenant, au moment où on enregistre cet épisode. Mais 35 euros pour un groupe qui débute, je trouve ça un peu cher.
C'est chaud.
Surtout qu'en vrai, les CD, moi, je m'en fous un peu, c'est surtout pour la collection.
Ouais.
Et par contre, je me dis peut-être que, genre, tu sais, quand le groupe JYP Loud, s'il sort un jour, je pense que là, j'essaierai de m'acheter au moins un album par comeback, tu vois. Histoire de dire bah j'étais là depuis le début, tu sais, c'est un peu voilà, un peu mon groupe de cœur, mes idols de cœur, et
le
Meets
voilà. Loud,
le Meets Loud, est-ce que ça sortira un jour, on sait pas, le Loud de Schrödinger, mais ouais. Mais voilà, on verra bien, mais je pense que je craquerai l'année prochaine pour au moins un album ou deux. Twice c'est mort parce que même si c'est mon groupe préféré, il y en a tellement et je suis tellement un complétionniste, tu vois. Je sais pas si le mot existe en français.
Si c'est ça.
Mais que en fait genre ça va me saouler d'acheter un album de Twice et de pas avoir les 40 autres derrière, tu vois. Du coup moi je préfère partir sur un groupe nouveau, comme ça j'achète au fur et à mesure, tu vois.
C'est très matérialiste comme manière de penser, j'aime cette
énergie. Mais c'est ultra matérialiste, moi je suis vraiment j'achète encore des DVD, enfin des Blu-ray, tu vois. J'ai vraiment mais enfin, c'est bon truc, voilà, c'est un peu mon toxique trait, mais voilà, j'aime bien les trucs comme ça de collection et tout, je trouve ça joli. Mais revenons à nos cupides, Hélène, si tu le veux bien. 50-50, du coup, j'avais écouté l'album qui était sorti avant Cupid, justement, que j'avais matraqué. Vraiment, il était incroyable. C'était vraiment un album qui sortait de nulle part et qui était sincèrement d'une qualité incroyable. Enfin, t'avais 4 titres dedans. C'était plus un EP qu'un album. Mais c'était vraiment, vraiment génial. Et les 4 avaient un talent fou. Et suite à ça, j'ai même écouté la chanson qu'elles avaient fait pour Barbie, tu sais, qui est sortie au mois de juin, je crois.
Oui.
Je crois que d'ailleurs, c'était une de mes musiques les plus écoutées sur mon Spotify Wrapped. De cette année. Ouais. Et du coup, en fait, ben, suite à ça, 50-50, il y a eu un gros drama, le groupe s'est séparé, les filles sont parties de l'agence avec le producteur, mais il y en a une qui est revenue, Kina, la rappeuse, enfin l'une des deux rappeuses, qui est revenue et qui maintenant, du coup, monopolise un peu le compte Instagram et les comptes des réseaux sociaux. De 50-50, parce que c'est la seule qui est revenue dans le groupe. A priori, un nouveau groupe 50-50 va voir le jour, avec Kina en leadeuse. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais je souhaite à Kina beaucoup de courage, parce que c'est une agence qui n'a pas l'air facile.
Ouais.
Et si les filles se sont barrées et ont porté plainte contre l'agence, c'est pas pour rien. C'est pas comme beaucoup d'influenceurs sur Internet veulent nous faire croire... parce qu'elles veulent de l'argent, non, ouais. Parce qu'elles ont vraiment subi des trucs vraiment horribles.
C'est parti loin, c'est parti très très loin.
Ouais. C'était vraiment. Enfin, je crois que l'histoire, c'est que. Je crois que c'était Aran, donc la plus jeune, qui a une voix. J'ai jamais entendu une voix pareille. Qui devait se faire opérer, je crois. Pour un polype, il me semble, je sais plus quoi exactement. Et l'agence avait refusé, en mode non, tu finis d'abord la promo et après tu vas te faire opérer, tu vois. Alors que ça aurait pu vite être dangereux, tu vois. Donc, ouais. Voilà, on leur souhaite à L3, Shio, Alan et Saena, eh ben, beaucoup de courage aussi pour leur bataille juridique avec, judiciaire avec leur ancienne agence. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'elles pourront un jour reprendre leurs activités, parce que c'est 3 idols qui, à mon avis, auraient pu... devenir les nouvelles Blackpink, quoi, mais avec un autre concept, mais en termes de popularité.
Ouais, bah ouais. On espère que ça se passera mieux, parce que je pense qu'elles ont bien fait. Quand tu connais toute l'histoire, on ne va pas toutes les détailler là, parce qu'il y a vraiment des dingueries, mais
Ouais.
il était temps qu'elles s'en aillent, en fait, parce que sinon, elles allaient laisser des plumes, quoi.
C'est ça. Et puis, bah, en vrai, je sais pas si le producteur avec qui elles sont parties, qui a produit leur album et Cupid, justement, je sais pas si lui a un peu profité en mode venez, on va faire un truc de notre côté, tout ça. Et en vrai, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout genre l'effet de comment elles étaient traitées avant. Même si effectivement elles ont profité du producteur pour se barrer et pour faire un autre truc de leur côté, même si c'était le cas, grand bien leur fasse. Moi je suis à fond avec elles. C'est pas facile hein, quand tu vois ce qu'elles prennent dans la tronche en Corée notamment, où les Coréens ont perdu tout amour qu'ils avaient pour elles en fait, parce que en disant ouais, tout ce qui les intéresse c'est l'argent, ils se barrent, ils laissent le pauvre petit. CEO de l'agence sans F, alors que bon.
Ils sont énervés, les Coréens, là-dessus, hein, punaise.
Ah, mais ils sont zinzin, hein, vraiment.
C'est vraiment une autre culture, hein. Ils sont vraiment, eux aussi,
Ouais.
matrixés par cette politique-là, et c'est dangereux, quoi. Vraiment, les Coréens, ils font peur, hein. Sur certains aspects, c'est tendu. Hein.
Bah, c'est ouais, une nation de droite plus, 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 quoi. Avec aucun, tu sais, aucun. Enfin, en fait, le bien-être des gens ne les intéresse pas, en
Non,
fait.
non, non, clairement. C'est bien l'ambiance de l'épisode, elle commence
Ouais,
bien.
mais ça commence un peu triste, mais on va parler d'autres trucs un peu sympas dans l'émission. À savoir, Hélène, eh bien, BTS, ça y est, ils sont partis
Ouais, ça y est,
faire la
très
guerre.
récemment, là, il y a 2 jours. Ouais,
Ouais,
c'est
je
ça.
crois, ouais, ils sont tous partis il y a 2 jours. Il restait encore Jungkook, Jimin, Evie aussi,
Taeyong?
je crois.
Ouais.
Ouais. Et là, ça y est, ils sont tous partis.
Ouais.
Et donc, 2023 a été une année. Je sais pas s'ils ont fait un titre en 2023, je crois pas, hein. Je me
Ben
rappelle
non, ils
plus.
peuvent plus. Ils peuvent plus parce que Jin est déjà à l'armée depuis 1 an maintenant. Et
Ça, déjà?
ça fait un moment.
Ah
Hein.
ouais,
Ouais, bah oui,
d'accord,
c'est ça, parce
ok.
que je crois qu'il partait à l'armée. Oui, c'est ça, 2022. Parce qu'en fait, tu peux pas, tu sais, il y a cette loi qui dit que
Oui.
quand t'es à l'armée, tu ne peux pas générer de revenus autres que ceux de l'armée. Et si tu en génères, ça part directement à l'État. Donc BTS, t'as rien pu sortir. Ils ont fait un dernier concert, je crois, gratuit. Et après, chacun, en fait, a commencé à sortir ses morceaux en solo. Donc il y a Gusté qui a sorti le sien, Jihyop qui a sorti le sien, Jungkook qui a été complètement unleashed et qui a
Ah ouais, non,
commencé
mais alors lui,
à
faut
faire ses
l'arrêter, hein.
trucs de
Faut
partout.
l'arrêter, lui.
Taeyong,
Faut
pareil, il a
l'arrêter.
sorti il y a une semaine où il en a sorti 3 ou 4. Enfin, il y a surtout eu des projets solo cette année, me semble-t-il, ouais.
Bah ouais, Jimin en a fait aussi.
Oui, Jimin,
Set Me
oui.
Free, enfin, vraiment, ça a été. Moi, j'aime beaucoup cette chanson.
Gros banger. Gros banger.
Mais en vrai, ouais, c'est vrai que cette année, mine de rien, les BTS n'étaient pas présents. Mais quand même, on en a beaucoup entendu, hein.
Bah, c'est évident, parce que de toute façon, ça reste des people, et même si l'entité BTS n'a pas le droit de faire de l'argent actuellement, elle en fait de toute manière. Et ils sont actifs, ça reste des artistes qui sont franchisés et qui doivent produire de la richesse. Donc à partir de là, ça continue, quoi. Ils ont repoussé jusqu'au bout la possibilité de partir. Enfin, Suga vraiment est parti au dernier, dernier, dernier moment, en terminant sa tournée, etc. Ça va faire bizarre pendant 2 ans, je crois, ouais, de pas les voir dans le paysage.
Ils reviennent en 2025, a
C'est
priori.
ça, ouais.
Ouais. Donc, c'est vrai que ça va faire vraiment bizarre. Moi, je sais que j'ai jamais trop, trop écouté BTS, à part certains de leurs titres qui sont vraiment incroyables, que je trouve absolument dingue. Mais moi, c'est pas trop mon groupe préféré. Tu vois, c'est pas un groupe qui me passionne, malgré tout. Je reconnais que ça fait quand même bizarre de plus les avoir, quoi.
Oui, ça va. Je pense que leur départ au service militaire va va avoir un impact clairement considérable dans le paysage de la K-pop pendant les deux prochaines années. Et les autres agences le savent.
Hein. Ah bah écoute, tu m'offres une transition incroyable, puisqu'il est peut-être temps de parler de Stray Kids, le petit groupe qui monte malgré le silence des médias.
Le petit groupe qui monte malgré le silence des médias, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ?
Non mais voilà, Stray Kids, là pour le coup, a une occasion à saisir, et on le voit, ils la saisissent plus ou moins bien. Mm. Ça monte. Tout le monde parle de Stray Kids.
Maintenant, ils se sont installés. Je pense que JYP est d'ailleurs un petit peu dépassé, parce qu'en fait, quand Stray Kids a commencé, il n'y croyait pas trop. Et d'ailleurs, ça se voyait dans la promotion qu'il faisait par rapport à la promotion qu'il faisait de ses autres groupes.
C'est vrai, ouais.
C'est clairement... JYP a toujours été très groupe féminin. Il a mis tous ses jetons dans le développement de Twice, dans celui d'NMX, dans celui d'ET... Et on sent très clairement que l'énergie qui est mise dans la promotion des groupes féminins n'est pas du tout la même que celle qui est mise dans la promotion des groupes masculins. Izinari et Rose, si tu connais pas JYP, en vrai, c'est très compliqué d'y accéder naturellement par l'algorithme, etc. Bon, Stray Kids, maintenant, ils sont partout. C'est-à-dire que c'est un groupe qui reste quand même très accessible en termes de musicalité. Ils sont dans l'âge d'or. De la jeunesse qui attire effectivement le public et leur internationalisation leur a donné l'occasion d'explorer énormément de genres musicaux différents. Ça a plu à certains, ça a pas plu à d'autres parce qu'on sent clairement que voilà, il y a eu une époque dans les années 2020-2021 et il y a l'époque actuelle et je pense qu'Ordinary a vraiment été un moment charnière dans leur carrière qui fait que maintenant ils font plus du tout la même chose. Il y a le public d'avant Ordinary et il y a le public d'après Ordinary. C'est assez clair et net. Et maintenant, ils ont un moyen de production qui est totalement différent, je trouve, même si c'est toujours Sriracha qui produit. Hein. Mais c'est plus du tout les mêmes exigences. Et je pense que ça a commencé à vraiment se voir dans S-Class, et que, dans Five Star, et que ça... Là, définitivement, avec Rockstar, c'est fini, quoi. L'époque Thunder Roos est révolue, quoi.
Ouais, complètement. Je vérifie, justement, oui, j'étais plus sûr, mais Ordinary, c'est bien le comeback Maniac qui, à mon avis, est sûrement l'un des meilleurs qu'ils ont pu faire depuis leur début, quoi. Si on met de côté Shin Menu et Thunder Roos, qui étaient vraiment, à mon avis, les deux meilleurs.
Ouais, c'est indépassable, cela, hein.
Ouais, je pense qu'ils feront jamais mieux.
Mais
pour le coup, ouais, c'est vrai que Stray Kids, c'est un groupe que même moi, maintenant, je me suis mis à écouter de manière quotidienne, et c'était un de mes top groupes sur mon Spotify Wrapped. Et pourtant, c'est vraiment, tu vois, c'est pas mon groupe préféré. Mais force est de constater que, à chaque fois, dans leurs albums, même si j'aime pas toute leur musique, il y a toujours 2-3 bangers qui font te dire « Ah ouais !» Ouais, elle est là, la relève, en fait.
Ouais, clairement. Clairement, moi, j'ai du mal avec Stray Kids depuis Maxident. C'est plus tellement l'énergie à laquelle je m'identifie.
C'était leur bonbon comeback, hein, je trouve, Maxident.
Ouais, clairement. C'était
vraiment pas terrible. Hein.
Ouais. Bah, j'avais beaucoup aimé Superboard, dont le clip est vraiment génial, mais c'est la nostalgie qui l'emportait. Le dernier comeback, la Rockstar, je sais pas trop où ils vont, probablement parce que justement ils changent de direction, ce qui est très intéressant, ce qui est très audacieux, et je pense qu'ils sont sur la frontière où ils se disent on essaye quand même de rester dans les clous avec JYP, mais on commence peu à peu à prendre notre envol et à faire ce que vraiment on a envie de faire. C'était quelque chose qu'ils pouvaient faire avant parce qu'ils étaient pas trop connus, donc s'ils faisaient entre guillemets de la merde, c'était pas grave.
Ouais.
Et c'est comme ça que Thunder Roos est leur meilleur album depuis le début, hein, je trouve. Et il y a vraiment eu Ordinary qui a été une bonne transition avec ça, et avec Maxident et Five Stars, on est vraiment dans ce qui est demandé en fait pour que ça marche. Et c'est ce qui, enfin, vraiment, j'ai vraiment été déçu par Five Stars.
Ouais, pareil.
Et le Rockstar, c'est... Voilà, il faut que je le réécoute, il faut que je l'apprivoise, mais je sens qu'on est de nouveau sur cette frontière où il y a des trucs qu'ils ont envie de faire, La version rock de La 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 La, je persiste et je signe, je pense que c'est celle de base,
oui,
et pas celle qui a été remixée derrière. Elle a été remixée ensuite pour être la B-side, qui n'est pas du tout une B-side de l'album. Ouais.
Entièrement d'accord avec toi, Hélène, pour le coup.
Et c'est ce qui marche. Enfin, c'est ce qui marche. Elle n'est pas difficile à retenir. Ça va faire un boucan monstrueux quand ça va être joué en concert. C'est ce qui marche. Mais c'est pas l'identité de Stray Kids à laquelle je me suis attachée quand j'ai commencé à les écouter.
Mais tu sais que on est vraiment d'accord. Si j'écoute de plus en plus ce groupe, je me dis à chaque comeback qu'ils font, qu'il manque ce truc. Tu vois, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé La La La. Mais putain, vous êtes Stray Kids, les gars. Les BTS sont partis à la guerre. Profitez-en. Donnez plus, tu vois. Donnez plus. Vous pouvez faire plus. Vous êtes capable de faire plus. Vous avez un groupe composé de talents incroyables. Faites plus. On a besoin de plus. Et je trouve, par exemple, que Megaverse, ça fait partie de ces titres où je me dis, ah ouais. Ah ouais, Megaverse, pas mal, tu vois.
Il y a une composition intéressante.
Ouais, mieux que La 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 La. Et tu vois, tu te dis, putain, c'est con. Blind Spot, j'aime bien aussi, dans le nouvel album. Mais tu vois, en fait, Stray Kids, ils doivent rester dans leur optique de faire du rap énervé. Je pense que c'est comme ça c'est ce qu'ils font de mieux.
Ouais, complètement. Complètement, mais c'est pas forcément ce qui marche aussi. Et ils essayent aussi de modeler une image qui n'est plus celle de leurs jeunes années, ce qui est parfaitement normal. Et ils ont le droit d'évoluer, hein, c'est une possibilité aussi, c'est nécessaire. Et le problème de Stray Kids, c'est que... Enfin, le problème, non, c'est pas un problème, c'est que je pense que c'est le circuit normal, le circuit basique que tu fais dans le monde de la K-pop, c'est que JYP s'est emparé du potentiel de Stray Kids, qui est un potentiel très élevé, qui est le potentiel sympathie. Stray Kids fait partie de ces groupes qui ont la chance d'être multinationalités. Et donc ça ouvre une portée à l'international, et c'est des personnes qui sont assez curieuses de l'international. Et en fait, ils se servent de ça, je trouve, avec le potentiel sympathie, pour leur faire faire énormément de contenu annexe autour des émissions qu'ils font. Il y a perpétuellement les Stray Kids Code, les Stray Kids Room, etc. Ce qui sont ces petites émissions, c'est des épisodes d'une demi-heure. À chaque fois, il y a les vlogs maintenant. Ils font désormais tout ce qui marche, et c'est ce contenu qui plaît le plus quand on voit le nombre de millions de vues qu'il peut y avoir en quelques heures sur ces contenus, plus que sur les MV. Les gens sont fatigués, je pense, de Stray Kids, d'une certaine manière, parce que je suis désolée, mais les MV, certes, on a plein la vue, mais c'est Gerbotron 3085% du temps. Ouais. On sent qu'il y a... Il y a une recherche, tu vois. Megaverse, c'est une proposition intéressante. Pour moi, c'est pas une musique aboutie. Il y a énormément d'inspirations différentes au sein de la même chanson. Enfin, on dirait du metal prog, en fait. Ça change de rythme à peu près tous les quatre mesures. On sent qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Une transformation qui est en train de s'opérer, et aussi une prise de confiance qui se voit dans les paroles. Ils sont tout le temps en train de dire « Ouais, c'est nous, on est les meilleurs, etc. On est arrivés jusque-là. » Oui, très bien, et vous l'avez mérité, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Il est temps, je pense, d'aller au-delà de ces acquis et de prendre vraiment une part dans la construction de leur identité, parce qu'on ne va pas les oublier, ce n'est pas possible, ils sont trop gros maintenant. Mais qu'est-ce qui vous différenciera de BTS quand vous serez, enfin, à votre tour, des géants de l'industrie musicale ?
Ouais, entièrement d'accord avec toi. Je pense que là, le prochain comeback va être déterminant.
Ouais, clairement.
À mon avis, si là, ils pondent un immense banger à la, tu sais, pour reprendre les BTS, mais un peu à la, tu sais, Blood, Sweat and Tears, ou genre Butter ou Dynamite, tu vois. S'ils arrivent à pondre des bangers qui, comme ça, rentrent en tête et sont aussi attachantes, ben, là, plus rien ne pourra les arrêter.
Clairement.
Et vraiment, jusqu'à... Jusqu'à ce que les petits soldats reviennent, ça va vraiment être, eux, le sommet de la K-pop, le visage de la K-pop.
Ouais.
Tu vois. Et ils peuvent le faire. Moi, je crois en eux. Hein. Ils peuvent le faire. Mais, comme tu dis, il manque cette proposition. Il manque ce truc à chaque fois depuis maintenant pas mal de temps. Même Maniac, hein, même Ordinary, qui est un album que j'aime beaucoup. Et Maniac, j'ai beaucoup aimé. Il manquait ce truc déjà, hein, je trouve. Il manquait déjà ce... où tu te dis, putain, vous nous avez habitués à mieux, les gars. Thunderous, c'était incroyable. Il est où notre Thunderous 2, tu vois?
Bah, je pense qu'il existe, il existera pas en soi. Ce sera pas possible, à mon avis, de faire mieux que Thunderous.
Ah ouais, t'es pessimiste quand même.
Ouais. Bah parce D'accord. que c'est du passé, parce que c'était en 2021, parce que depuis ils ont grandi, ils ont vécu des choses, ils ont changé d'envie, ils ont changé d'idée, ils ont changé de personnalité, etc. etc. On peut pas s'attendre à ce qu'ils refassent la même chose, on peut juste s'attendre à ce qu'ils fassent des propositions qui rentrent dans la tête et qui donnent envie de continuer à les suivre. Avec Thunderous, c'est tout un univers qui se construisait, il n'y a pas une seule chanson qui se passe dans l'album, c'est dingue. Et Ordinary est arrivé un petit peu comme un petit frère.
Ouais,
avec des très bonnes propositions, et en fait je trouve simplement que la promotion, je pense que c'est la promotion donc qui pêche, hein, la promotion a été faite sur les chansons qui avaient peut-être pas autant de potentiel. Alors Maniac est génial, hein, y a pas de souci, mais on a attendu une bonne année pour avoir la chorégraphie de Freeze qui selon moi fait partie des meilleures de l'album. Il y en a quelques-unes comme ça, dans le lore de Stray Kids, qui sont incroyables, qui sont adorées par les fans, mais dont la promotion n'a pas choisi de les mettre en valeur. Et j'arrive pas à identifier les choix que fait JYP dans la promotion de Stray Kids actuellement, si ce n'est la promotion de personnalité plus que de musicien. Et ça me dérange, pour le coup.
Mais c'est con, parce qu'ils ont justement Stray Kids la chance... d'avoir d'excellents musiciens. Bah, parce que mine de rien, les Three Watcha, c'est des producteurs incroyables, quoi. Je suis pas fan forcément de Han en tant que rappeur et en tant que personne, mais force est de constater qu'il sait écrire, quoi.
Ah oui, ou c'est un excellent parolier.
Les trois, ils sont vraiment trop forts. Et en plus de ça, ils composent tout. Et vraiment, enfin, tu vois, ils ont ce truc qui fait qu'ils pourraient être tout en haut, mais ils y sont pas encore, tu vois. C'est comme si... tu vois, c'est comme, genre, admettons, le très bon élève qui te ramène des 12 sur 20, tu vois. Ou bah, allez, même des 14 sur 20. Tu te dis, mec, c'est bien, mais le 19, il est pas loin, tu vois. Tu peux y arriver. Et c'est dommage.
Je pense que ça vient moins d'une histoire de talent, d'une histoire que d'une histoire, en fait, de promotion et de direction qu'ils sont en train de prendre. On voit qu'ils ont pris leur envol de manière suffisamment prégnante pour détail. Ils sont sur Instagram chacun. Ils ont eu la possibilité d'être sur Instagram singulièrement, tous. Il n'y a que Anne et Lino qui ont décidé de ne pas faire de compte personnel, ce qui est tout à fait respectable. Donc déjà, tu vois qu'ils commencent à prendre un peu d'importance et que ce sont vraiment des grands de l'industrie musicale. Et ça je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel quand tu vois d'où ils sont partis. C'est quand même un groupe qui a été amputé d'un de ses membres, faut le rappeler quand même.
C'est vrai, t'as raison. Ouais.
Avec les conséquences que ça a eues, c'est un groupe dont le visuel et danseur principal, Yunjin, a été en hiatus pendant plusieurs mois.
Ouais, c'est vrai.
C'est un groupe qui a traversé le Covid, avec les circonstances que ça a eues. Et je pense que voir où ils en sont aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont traversé à leur âge, c'est quand même un exploit.
En tout cas, on leur souhaite, moi je souhaite perso, que ça devienne vraiment, comme on l'a dit, hein, le visage de la K-pop masculine. Je veux, tu vois, que les gens dans la rue viennent me dire « Oh, t'as vu le nouveau menu Stray Kids de McDo, tu vois ?» Comme on avait vu pour BTS, tu vois.
ça finira probablement comme ça. C'est un groupe qui a le potentiel, tout domaine et élément confondu, pour devenir... devenir le nouveau BTS. Après, ils sont pas aussi bons, très clairement.
Oh, mais ils sont... c'est...
Mais ils sont plus jeunes.
Tu penses qu'il y a une histoire de talent là-dedans?
Je pense très clairement qu'il y a une histoire de talent. Simplement, quand tu compares les rappeurs, ça n'a rien à voir. Tu peux pas décemment comparer Changbin à Namjoon de BTS. C'est pas possible.
C'est-à-dire?
Et eh ben c'est-à-dire que Namjoon est meilleur. C'est que tu compares Sriracha de Stray Kids à Cypher de BTS, ça n'a rien à voir. Ouais, mais ils ont pas le même âge, ils ont pas la même expérience, c'est normal, c'est pas quelque chose que je dénigre.
Tu vois. Mais ça, c'est un truc, un jour, il faut qu'on fasse un épisode débat, mais pour moi, et pourtant, je suis pas un stay de ouf, tu vois, mais pour moi, vraiment, Changbin est le meilleur rappeur actuellement sur la scène K-pop.
Ah non, je vois, non,
je connais pas tout, hein, mais bah voilà, mais je connais pas tout, mais vraiment, moi, il y en a pas un qui me fait vibrer comme Changbin me fait vibrer.
Alors qu'il te fasse vibrer parce qu'il a une personnalité et une manière de rapper exceptionnelle, ça, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est mon bias de Stray Kids aussi. Mais non, pour moi, ce n'est pas le meilleur rappeur sur la scène K-pop actuellement. Non, 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 il y a bien, bien meilleur. Il y a plus rapide, il y a plus énervé, il y a plus... Après, voilà, ça dépend complètement de la sensibilité et de l'émotion que cette personne va te transmettre. Il y a des rappeurs extrêmement bons qui peuvent ne pas te toucher du tout. Après, moi, c'est compliqué parce que j'aime beaucoup les rappeurs. J'aime beaucoup les rappeurs rapides, etc., les rappeurs à texte, etc. Il y a différentes exigences maintenant, qui ne sont plus les mêmes qu'autrefois aussi. Ce ne sont pas les mêmes agences, ce ne sont pas les mêmes personnalités. Donc après, oui, effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. Après, effectivement, dire que Changbin est le meilleur rappeur sur la scène K-pop aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu présomptueux.
Eh ben, je te suis complètement dans ce cas. Et j'ai pas
honte de le dire. Tu as le droit.
Non, après, je dis ça, mais je connais pas du tout tous les groupes. Il y a plein de groupes que je connais pas encore beaucoup. D'ailleurs, merci. On en profite, c'est l'épisode de... un petit peu apéro, mais merci de m'avoir fait découvrir One Us, il y a vraiment même pas une semaine, je n'écoute vraiment que ça depuis samedi je crois.
Ah c'est génial, terrible. C'est génial.
C'est incroyable, c'est tout ce que je recherchais dans la K-pop,
c'est vrai.
De la pop sans être trop rap tu vois, mais de la pop qui est bien énervée tu vois, avec des instrus incroyables, des gamins qui sont absolument géniaux, et vraiment j'aime énormément One Us. Et je te remercie, Hélène.
C'est
encore en train de découvrir, mais trop vraiment, bien. C'est de la balle.
C'est un groupe qui a une histoire super sympa aussi. On y reviendra dans un épisode thématique à un moment donné, parce que pareil, il y a pas mal de choses à dire.
Et je veux qu'ils montent aussi, parce qu'ils n'ont pas encore assez de vues à mon goût. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font.
Ils ont pris cher là, l'année dernière, hein, avec le départ de Raven. Pour plein de raisons qui sont discutables et complexes, etc. Donc ça, ils ont un petit peu eu du mal à repartir, forcément. Mais c'est un groupe qui a beaucoup de potentiel, qui fait pas trop des choses qu'on attendrait. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'en faire la promotion, mais ça reste un groupe super intéressant dans ses propositions musicales. J'aime beaucoup leur composition, pour le coup. C'est vraiment une très bonne gestion du rythme. Et, ce qui manque chez One Us, c'est une gestion de l'univers. On attendrait peut-être un lore un petit peu plus poussé que des groupes tout aussi jeunes ont déjà bien amené. Mais encore une fois, c'est des choix de production.
Et encore une fois, c'est une transition merveilleuse, je m'en étais même pas rendu compte. Puisque One Us fait partie de la même agence que Mamamoo, et cette agence-là s'est vue, tout simplement voler. On ne sait pas si voler, mais en tout cas voilà.
Si.
Leur idol fétiche, on peut dire quand même, parce que c'est pas n'importe qui, c'est Wasa, qui maintenant a signé chez P Nation.
Oui.
C'est quand même un des une des news de l'année, à mon avis, quand même, parce que c'est pas n'importe qui,
Waza qui chine chez P Nation, c'est un tonnerre dans la K-pop.
Et est-ce que t'as vu l'annonce de ce moment-là, la signature, est-ce que tu l'as vu en plein concert, Psy qui est là, avant de continuer, j'ai quelqu'un à faire venir.
Ouais.
Et Waza rentre sur scène et signe le papier. Il y avait des rumeurs pendant des jours et des jours comme quoi il allait rejoindre l'agence, tout ça.
Ouais.
Mais c'est ouf. Et en même temps, c'est pas très étonnant. Ça, il aime bien les idols un peu outcast, tu vois, un peu... Et Wasa, ça correspond complètement. En plus, ils sont très potes, les deux. Et ils ont déjà fait des feats plusieurs fois, je crois.
Ouais.
Voilà, ils se connaissent bien. Et vraiment, moi, je suis pas du tout étonné. Alors, Wasa continue quand même chez Mamamoo, hein, mais sa carrière solo maintenant est gérée par l'agence de Psy.
C'est une très bonne chose.
J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Bah, on l'a déjà vu, I Love My Body, c'était quand même sympa. Hein.
C'est au-delà du sympa.
Ouais, c'était quand même très bien. Et il nous faut des trucs comme ça dans la K-pop.
Oui, il y a besoin. De toute façon, on n'a jamais assez d'oiseaux dans nos vies. Donc, plus de ça, c'est parfait. Je signe.
C'est vrai.
Je signe. Merveilleux. Incroyable.
Elle a vraiment un charisme incroyable.
Elle est formidable. Elle est formidable. Je
Elle est
l'aime.
trop
Elle est
forte.
merveilleuse.
Elle est trop trop forte, quoi. Moi, j'aime bien Mamou, en vrai.
J'espère.
Ouais, franchement, enfin, alors, j'ai pas tout écouté, mais ce que j'écoute à chaque fois. Après, peut-être que je suis amoureux de Solar, mais.
C'est pas étonnant du tout.
Ouais, mais voilà. Mais vraiment, enfin. Elles sont vraiment cool et Hwasa, elle a vraiment. Elle a vraiment ce truc, tu vois, qui fait que. Waouh, quoi. Waouh. Elle
Ouais.
est forte.
Ouais. Très clairement, c'est une queen, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les
Ouais.
règles.
Non, mais entièrement d'accord. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Omega X?
Bien entendu que je me rappelle de l'histoire d'Omega X. Quel bazar!
Oh là 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 là
Quelle
là.
dinguerie cette histoire! On aurait pu en
Est-ce
faire
que
une
tu peux le
série.
rappeler? Est-ce que tu peux le rappeler vite fait un peu aux auditorices?
Ouais, clairement, c'est. Alors en fait, l'histoire Omega X, ça a été très rapide, mais ça a fait ça a fait un tonnerre dans l'histoire de la K-pop. Parce que c'est simplement symptomatique de ce qui se passe tous les jours dans ce monde. C'est juste que elle a été énormément médiatisée. Omega X, à la base, c'est donc un boys band qui a été formé en 2021 par Spire Entertainment. Donc il y a 11 membres dedans. Et bon, déjà, ça part mal parce qu'ils sont tous issus de groupes qui ont été dissous et donc on les a tous mis ensemble et ça fait des trucs plus ou moins bien et notamment des trucs pas bien du tout, notamment donc en 2022, parce que l'histoire commence en 2022, parce que les membres du groupe portent plainte contre leur label. Et pas pour rien, à la suite de harcèlement répété. C'est parti très très loin. Et en fait, tout commence en octobre 2022. Putain, c'était il y a déjà un an.
Déjà?
Parce qu'il y a des vidéos qui fuitent sur Twitter.
Ah ouais, c'est
Des
terrible ça.
vidéos et des photos qui montrent des membres du groupe se faire harceler physiquement et verbalement par
Ouais.
leur manager.
Qui est la
Et...
femme
Ouais.
du CEO de l'entreprise, hein, il me semble.
Voilà, qui est la femme du CEO de
Ouais.
l'entreprise. Et à un moment donné, l'histoire qui a tout fait péter, je crois que c'est cette histoire-là, ils sont abandonnés littéralement à l'aéroport par leur manager.
Ah ouais, je me rappelle plus ça.
Ils sont abandonnés à l'aéroport de Los Angeles par leur agence, par leur manager, sans rien, sans rien du tout. Et donc ils doivent rentrer par leurs propres moyens en Corée du Sud.
Waouh.
Alors, c'est ça qui a tout fait péter. C'est bah parce que en fait ils ont forcément t'as l'habitude qu'ils soient entourés, etc. Enfin, nos auditeurs et nos auditrices savent à quel point c'est le bordel à chaque fois quand on va attendre les idoles qui sont un petit peu connues aux aéroports. Ils ont des agents, ils ont des gardes du corps, etc. Bah voilà. Bah imaginez que là il y a rien du tout. Et donc en fait, ils ont été livrés à eux-mêmes à l'aéroport de Los Angeles fin 2022, et à partir de là, tout a pété. Et l'agence a prétendu que non, mais c'était pas grave, et c'était un malentendu, et il n'y a pas de problème de maltraitance, et ça part en couille complètement. Évidemment, les réseaux enflent, et il y a plein, plein de conversations qui commencent à fuiter. La CEO, donc Kang, qui commence à s'énerver et qui commence à menacer les membres du groupe de les faire dégager, en fait, s'ils essayent de divulguer des preuves. Et là, ça part en couille, en fait, les membres décident de porter plainte. Et ça va très vite. Ça va très vite parce que je crois que c'est en 2023, début 2023, 11 janvier 2023. Omega X annonce enfin avoir remporté son procès, évidemment, encore heureux, face donc à
Ouais,
l'agence
c'est
Spire
clair.
Entertainment. Et donc, ils obtiennent la possibilité de suspendre leur contrat avec l'agence. La possibilité de suspendre leur contrat avec l'agence. Malgré tout, ça a laissé forcément des séquelles que l'on imagine. Ça ne les a cela dit pas empêchés, me semble-t-il, de comeback cette année.
Oui, en novembre, ils ont sorti un truc.
C'est ça. Donc voilà, grosse, grosse dinguerie qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux pour des raisons évidentes. À la fois évidente et hypocrite, parce que c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et si un petit truc comme ça a réussi à prendre de l'ampleur, qu'est-ce que ça pourrait être pour le bonheur des artistes, pour la santé des artistes, si on pouvait faire apparaître au grand jour tous les problèmes systémiques qu'il y a chaque jour autour des idoles. Parce que ce qui est arrivé à Omega X, ça arrive tous les jours en fait. C'est juste que c'est complètement étouffé.
Bien sûr, et parmi même sûrement dans des agences plus importantes, hein, parce que c'est vrai que Spire, c'était pas une agence immense, mais en vérité, ça doit arriver dans des groupes venant des Big Four, hein, c'est sûr et certain.
Ah oui, non, mais ça a pété chez Spire parce que c'est une toute petite agence. Mais grosse, oui, ça arrive tous les jours et c'est juste caché.
Bah, ASM et YG, je suis vraiment sûr que...
C'est assez évident. Enfin bon, on va pas faire trop de spéculations non plus et rentrer dans des théories du complot, mais à un moment donné, faut être lucide. La K-pop, c'est un environnement délétère et on ne sait bien que ce qu'on veut bien nous dire, quoi.
C'est pour ça que, tu vois, encore une fois, je suis content que ça maintenant soit chez P-Nation, parce que P-Nation, ça a l'air d'être quand même si, encore une fois, il faut faire attention, d'être une agence plus cool... bien sûr à prendre avec des pincettes hein, mais voilà moi j'ai un bon feeling avec cette agence même si bon ça reste une agence de K-pop, leur but c'est de faire de l'argent et que dans tous les cas faut se méfier.
Oui il faut se méfier très clairement, enfin quand on voit qui est à sa tête ça il est pas arrivé où il en est en étant un gentil garçon.
Ouais, je pense pas, effectivement. Ouais.
Salut, c'est la Hélène du montage. La news qui est traitée dans les prochaines minutes concerne l'idol Moonbin, ex-chanteur du groupe Astro, qui a mis fin à ses jours le 19 avril 2023. Parce que l'événement nous a beaucoup touchés, Adrien et moi, nous avons décidé de ne pas faire l'impasse à ce sujet et de mettre en lumière à quel point il est révélateur des côtés délétères de l'industrie coréenne. Si c'est une question sensible pour toi, tu peux passer à la news suivante sur Black Swan autour de 52 minutes. Si vous êtes en détresse et si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide, le 3114, accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement en France entière.
Maintenant, je pense qu'il est temps de parler des choses qui sont pour le coup assez dramatiques. En tout cas, d'une chose qui est très dramatique, c'est quand même la perte de Moonbin cette année. A été un moment très compliqué pour les fans de K-pop à travers le monde. Moonbin, c'était donc un idol du groupe Astro, c'est ça hein.
C'est ça, ouais.
Moi, je connaissais pas bien du tout et c'était un moment très compliqué quand il est décédé. Je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos, tout ça, et vraiment, ça montre encore une fois à quel point la K-pop, c'est un monde... une industrie vraiment horrible et qui en fait va jusqu'à tuer des jeunes gosses ultra talentueux qui avaient leur vie devant eux quoi.
Ouais, complètement, encore une fois c'est systémique hein. c'est arrivé plusieurs fois parce qu'a priori c'est foutu en l'air hein. on va dire les termes, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore et ça ne fait que refléter en fait le climat extrêmement, extrêmement complexe qui règne dans cette industrie derrière les paillettes, les projecteurs et les jolis sourires.
Bien sûr, hein, on pense à ses collègues d'Astro, mais aussi à sa sœur, Soa, qui est idol aussi. C'est vraiment... ça a été un moment très compliqué, même pour moi qui voilà, ne regarde pas du tout le... qui ne connaissait pas du tout Astro, tu vois. Moi, je suis juste de nom. Vraiment, c'est quelque chose que j'imagine doit être vraiment traumatisant pour toute l'industrie et surtout pour tous les jeunes idols qui y travaillent. Où tu te dis, putain, ils ont perdu un ami, un frère, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Et est-ce qu'au moins les agences vont comprendre?
Non, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, c'est quelque chose qui va arriver de nouveau. Les agences ne sont pas responsables de tout non plus, c'est toujours pareil, parce qu'on peut pas dire ça, parce qu'on n'aura jamais, en fait, tous les éléments de l'histoire. Même si, oui, a priori, vrai. On comprend que Moonbin a décidé de mettre fin à ses jours par épuisement, c'est pas quelque chose qui est prouvé officiellement. De la même manière que toutes les disparitions qui ont eu lieu précédemment dans l'histoire de la K-pop n'ont jamais été précisément éclairées. Ils aiment bien faire la promotion de beaucoup de trucs, et puis ça, c'est bien caché sous silence. C'est des cas complexes, parce que ça peut faire rentrer énormément, en fait, de choses très délicates en ligne de compte. Et tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est soutenir, en fait, les artistes qui restent. Et rester lucide, en fait, sur le fonctionnement de cet environnement de divertissement qui n'est pas sain, très clairement.
Ouais. Ouais, encore une fois, on le répétera jamais assez, mais faut protéger les idols plus que tout, quoi. C'est des gens qui sont soumis à un stress permanent et à du travail continuel et vraiment continu. Continuel. Je sais plus parler. Continue. Mais du coup, c'est. Voilà, c'est. C'est très compliqué et c'est vrai que. J'espère que. Que Moonbin. Tu penses que ça va rien changer, mais moi j'espère quand même que certaines agences, notamment les plus petites, vont tenter de tu vois, de se dire bon, peut-être on ne devrait pas les pousser autant, quoi. Même si encore une fois, c'est pas forcément que les agences, on sait pas ce qui se passait dans sa tête, mais voilà, c'est quand même compliqué et quoi qu'il en soit, même si c'est pas la faute de l'agence, l'agence aurait dû mettre les moyens nécessaires pour prévenir. Ce genre d'événement, tu vois. Donc voilà, c'est très compliqué. Ça a été un moment très dur cette année. Je pense sûrement le moment le plus compliqué de l'année 2023 dans la K-pop. Ça a vraiment remué jusqu'en Occident. Hein, on en parlait à la télévision. Voilà, c'est très compliqué. Et voilà, on envoie tout notre amour aux proches de Moonbin. Voilà, maintenant sur une note un peu plus positive, Hélène, même si ça va être un peu dur de repartir, j'aimerais bien qu'on prenne le temps un peu de parler de Black Swan.
On n'a pas du tout fait un épisode de 50 minutes sur elle.
Absolument. Non, mais parce qu'en vrai, Black Swan commence vraiment à bien
exploser. Grosse montée de Black Swan en 2023.
Je pense que là, elles ont trouvé leur line-up parfaite. Faut pas que ça change. Il y a encore quelques semaines, elles ont été aux États-Unis pour leur premier meet-up avec des fans. Elles ont fait plein d'activités avec les fans, tout ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant de voir à quel point elles montent. Et là, ces derniers jours, Fatou a sorti un album solo, enfin un petit EP solo.
Incroyable, qui est génial.
Tu l'as écouté ? J'ai pas écouté moi encore.
Ouais, qui est vraiment super.
Ah ouais, d'accord.
Moi que j'aime beaucoup, en tout cas, qui est très différent de ce qu'elle fait avec Black Swan. Qui montre vraiment son identité personnelle et ses choix artistiques personnels. Et je pense qu'on va au-devant d'une très très bonne future soloiste.
Ouais, franchement, elle en veut, quoi. Elle est là, elle est vraiment... je connais pas d'autres idols qui vraiment en fait autant qu'elle, quoi. Elle est vraiment partout, elle est... Je crois qu'elle a écrit ses paroles aussi pour le... Enfin, elle est à fond, quoi.
Elle a une grande place dans le processus de création et elle le peut parce qu'elle est dans une petite agence et que tout n'est pas encore cadré et matrixé. Et donc, elle a l'occasion d'avoir une grande liberté de création. Après tout ce qu'elle a traversé pour en arriver là, vraiment, je suis super contente qu'elle puisse s'épanouir de cette manière. Et j'ai vraiment très très hâte de voir comment ça va se passer par la suite pour elle parce que... Vraiment, elle mérite. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. C'est une personne qui a l'air adorable, très entière. C'est vraiment ce genre d'artiste que je veux voir grandir sous les feux de la rampe de la K-pop.
Ouais, non, mais pareil. C'est vraiment une idole qui, moi, ne cesse de m'épater. Elle est tellement à fond, tellement humaine, comme tu dis. Elle est entière. Et ouais, enfin... Fatou, je pense que c'est... C'est elle, et on le voit bien hein, dans la promotion que fait le groupe, mais c'est elle le cœur de Black Swan, c'est elle le moteur de l'agence même, je dirais. Et voilà, il faut que ça continue comme ça, et il faut qu'ils arrivent à nous pondre un titre au moins aussi bien que Karma, pour un futur comeback. Et franchement, ouais, cette line-up, elle est géniale, quoi. Envy, Gabi et Shreya, elles sont toutes, toutes trop fortes. C'est vraiment.
Ouais, clairement. C'est
Ouais.
Black Swan, c'est vraiment ce qu'on a envie de voir autrement dans la K-pop, dans le monde de la K-pop aujourd'hui. Je suis très heureuse quand je vois des vidéos aussi de concerts qui paraissent sur les réseaux, de voir le monde qui les accueille, le monde qui chante avec elles, qui danse avec elles. Ça me fait super plaisir. Et c'est vraiment un groupe auquel on ne s'attendait pas dans la K-pop. Surtout après tout ce qu'elles ont traversé, elles aussi.
Ouais.
On vous renvoie à notre épisode qu'on a fait sur le sujet, Black Swan, le pire karma de l'histoire de la K-pop. Le karma est en train de tourner et c'est une très très bonne chose.
Ouais, absolument. Maintenant, il y a eu un événement qui a ponctué, enfin, plusieurs événements qui ont un peu ponctué la vie de la K-pop ces derniers mois, Hélène, et qui, moi, m'ont fait beaucoup rire. Est-ce que Blackpink signe ou pas?
Quel bazar ça aussi! Oh là là! Les Blackpink ne sont plus des idoles maintenant. Ce sont des modèles, ce sont des femmes d'affaires, ce sont des artistes complètes qui ont envie de faire leur bail chacune de leur côté et pas au sein de l'agence hyper, hyper, hyper étriquée qui a été la leur. Et ça plaît pas beaucoup à l'agence.
Non, puisque pendant plusieurs semaines, moi je regarde pas mal de vidéos sur l'actualité de la K-pop. Et vraiment, pendant même plusieurs mois, hein, y a enfin, les gens étaient là. Bon, quand est-ce qu'elles vont signer? Est-ce qu'elles signent? Est-ce qu'elles signent ou pas? Est-ce qu'elles renouvellent? Il y a des rumeurs qui disent qu'elles renouvellent toutes sauf Jisoo. Il y a des rumeurs qui disent que Lisa, elle va pas signer. Et ça a été super long. Ça a été super long. Ça a été vraiment le feuilleton de l'année, quoi. Est-ce qu'elles vont repartir en tant que Blackpink? Est-ce qu'au contraire, elles vont s'arrêter? Est-ce que... Et du coup, c'était vraiment drôle et à la fois un peu chiant. Ou vraiment, genre.
Quel
Et bon, quoi,
feuilleton!
y a pas que Blackpink dans la vie déjà. Et en plus, genre. Voilà, laissez-les faire ce qu'elles veulent. Mais l'agence n'en a pas. Ne s'est pas arrêtée là. Hein, et vraiment, là où on pensait. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter. Je pensais vraiment que Lisa n'allait pas re-signer. Je pensais que ça allait être fini. Et ces derniers jours, on fait bien d'enregistrer maintenant, tiens. Ça a été confirmé, c'est bon, elles ont toutes signé pour renouveler leur contrat pour Blackpink. Donc, YG a dû souffler, je pense.
A dû allonger des thunes monstrueuses,
Ah, mais
surtout.
j'ose même pas imaginer l'argent qu'ils ont allongé pour les avoir.
Ouais. Ouais,
Surtout Lisa,
clairement.
je pense.
Surtout
Lisa qui
Lisa,
avait
parce
elle avait des propositions.
on voyait les sommes publiées sur les réseaux. Ça n'a cessé de monter jusqu'à des plafonds exorbitants.
Mais ouais, non, Lisa, moi j'ai souvenir de. Enfin, il y avait des. Je crois que. Je sais plus, c'était. Elle vient de Thaïlande, c'est ça, hein, Lisa? Je sais plus.
Oui, c'est ça, ouais.
Il y avait même des agences thaïlandaises qui étaient prêtes à payer des tonnes et des tonnes pour les récupérer. Enfin, vraiment, c'était. Tu te dis, mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ouais, c'est quand même. Enfin, YG a réussi à les récupérer et j'ose même pas imaginer l'argent qu'ils ont claqué pour retrouver le groupe, quoi. C'est quand même impressionnant. Blackpink, c'est mine de rien le groupe K-pop. Enfin, c'est même plus de la K-pop en vrai, je trouve. Enfin, bref, encore une fois, c'est un débat un peu compliqué, mais ouais, Blackpink, c'est pas n'importe quel groupe, hein, mine de rien. Je pense que c'est l'un des groupes qui comptabilise le plus de vues sur YouTube avec BTS. C'est vraiment les deux
Ah
pierres
oui,
angulaires de la K-pop.
c'est 92 millions d'abonnés hein, sur
Ah ouais,
YouTube
la
d'un
vache.
Blackfinger.
Ah ouais, la vache. Donc ouais, c'est quand même beaucoup. Et en vérité, voilà, ça va repartir. On va avoir. D'autres comebacks, alors bon, c'est YG, donc pour les comebacks, faut pas trop se presser, hein, à mon avis, si on en a un en 2024, c'est bien déjà, mais elles ont bien bossé cette année, elles ont fait un world tour qui était impressionnant, elles ont pas arrêté de se produire en concert, vraiment, reposez-vous un peu les filles, vous l'avez mérité, je pense.
Mais la K-pop a toujours été féminine plus que masculine. Hein.
Ouais.
Ah oui. Oui,
Il
Blackpink,
faudrait que tu fasses un épisode dessus.
Sur le genre dans la K-pop, oh là, il y aurait des choses à dire. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Disons que la K-pop, dans les débuts, c'était plutôt masculin. Parce que le but était, dans la première génération, parce que le but était surtout de suivre les canons américains. Et c'est vraiment à partir de la troisième génération, et vraiment la quatrième, que la K-pop est surtout vraiment, c'est vraiment, vraiment féminisé d'un point de vue promotionnel et d'un point de vue appréciation des fans. Aujourd'hui, la K-pop masculine, c'est... Disons que c'est différent. Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus célèbre ou pas que l'autre. Disons qu'on n'en attend pas la même chose. Les filles, je ne sais pas trop ce qu'on attend des femmes aujourd'hui dans la K-pop, mais on attend... on attend comme dans... C'est le moment féministe ! On attend,
ah mais il faut, t'as raison.
on attend des femmes aujourd'hui dans la K-pop qu'elles respectent un certain nombre de dogmes de la société, mais c'est la même chose aussi pour les hommes, c'est juste que c'est pas les mêmes dogmes. Et j'ai remarqué que c'était vraiment avec la quatrième et l'aube de ce qu'on peut appeler la cinquième génération que les groupes féminins ont explosé, ce qui est particulièrement étonnant puisque les fans de K-pop sont principalement des personnes identifiées comme étant des femmes et des femmes hétérosexuelles.
En Occident.
En Occident.
Ouais.
Et de la sorte, je trouve, quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, sur les contenus, que les fans identifiés comme femmes hétérosexuelles en Occident sont beaucoup plus coulantes avec notamment les erreurs des idoles masculins qu'elles le sont avec les erreurs des idoles féminines. Et pourtant, quand il s'agit de porter au nu un groupe et de le défendre, il va y avoir une espèce de sororité soudaine qui va se manifester pour célébrer la réussite féminine. Alors il faudrait réaliser une analyse beaucoup plus complète hein, de ce que je suis en train de dire, parce que là je le fais sans script, sans notes, sans rien. Il faudrait des références précises et analyser des cas précis. Mais ce sont les femmes qui sont poussées par les agences. Comme si c'était... comme si ce qui marchait en direction des fans identifiés comme hommes hétéros, c'était les groupes de femmes. Sauf qu'en fait, ce qui marche, et c'est là où c'est intéressant, tout genre confondu et toutes orientations romantiques confondues, ce sont les groupes masculins. Parce que le masculin biologique, pour le coup, de Corée, est un masculin platonique, c'est le masculin du divertissement, c'est le masculin qui assume sa part de féminité, sa part de tendresse, et c'est quelque chose qui manque beaucoup à la personne identifiée comme femme hétérosexuelle de l'Occident. Et je pense qu'il faut considérer vraiment la K-pop masculin-féminin, le monde binaire de la K-pop, à la fois d'un point de vue oriental et d'un point de vue occidental. Ce qui marche en Orient n'est pas du tout ce qui marche en Occident. Et c'est super intéressant de voir à quel point en Orient marchent surtout les groupes féminins et qu'en Occident marchent surtout les groupes masculins.
Ouais,
il y aurait pas mal de trucs à dire là-dessus.
Ouais, il faudrait faire une analyse sociologique. Je sais pas si les sociologues bossent sur la K-pop, je pense que oui, il va y en avoir. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de...
Ouais, carrément. Un futur article de notre part, peut-être, je sais pas.
Ah, peut-être, écoute, allez.
Écoute, on en a un à finir, là, qui nous attend.
Très bien. Non, mais en tout cas, on souhaite beaucoup de courage au Blackpink pour continuer sur cette lancée qui est quand même légendaire maintenant. Hein.
Oui.
Et voilà, c'était quand même le feuilleton rigolo de l'année. Est-ce qu'ils vont signer ou pas? C'était plutôt fun. Maintenant, Hélène, j'aimerais bien qu'on revienne sur... enfin, plutôt qu'on se pose une question pour conclure un peu l'épisode. J'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de traverser un bouleversement du monde de la K-pop. J'ai l'impression que les Big Four sont de moins en moins importantes, même si forcément, il y a des exceptions, hein. Il y a toujours HYBE en top, JYP en dessous, YG, SM, tout ça... Mais j'ai l'impression que cette année, on a eu droit à pas mal de groupes qui sortent un peu de nulle part, qui, comme on l'a vu, hein, 50-50, qui arrivent et qui sont en train de faire leur place dans ce système qui était pourtant bien fermé à la base.
Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une considération dont j'ai eu la preuve supplémentaire quand on a travaillé ensemble sur l'élaboration de notre épisode des Awards qui va sortir un petit peu après celui que vous écoutez actuellement. Les comebacks de cette année sont, je trouve, on est vraiment sur une année où on a eu une diversité de propositions musicales sans précédent.
Ouais.
En termes d'agence, en termes de type de musique, en termes de type de groupe, en termes de lore de groupe, on est en train de basculer dans une génération qui n'a plus rien à voir avec les précédentes. Et je pense que cela va de pair avec l'époque de carrière dans laquelle rentrent Blackpink et BTS, qui sont les derniers géants, en fait, de la troisième génération, qui laissent un peu...
T'en oublies une, quand même, un groupe, quoi. Twice, quand même. Bon, faut pas les oublier. C'est moins gros, mais elles arrivent aussi au bout de...
Oui, mais alors, elles n'arrivent pas au bout. Je pense qu'elles ont encore beaucoup de choses à proposer.
Ouais, oui, je pense. Mais n'empêche que elles sont dans leur deuxième moitié de carrière, quoi.
Oui, oui, elles sont clairement dans leur deuxième moitié de carrière et on voit qu'elles laissent peu à peu la place à NMX, à ICI et à...
Vicha maintenant, bientôt.
Tcha, bientôt. On sent clairement que, voilà, que la troisième génération ne s'essouffle pas, mais laisse passer les grands monstres, laisse le flambeau. Et pas forcément à la quatrième génération, en fait.
Ouais, c'est vrai.
On n'a pas senti... La passation entre la troisième et la quatrième, tout simplement parce que, encore une fois, il faudrait faire une analyse précise, mais pour moi, elles ne sont pas liées du tout. On a vraiment la troisième génération qui matérialisait rapidement le passage vers quelque chose de nouveau, qui n'avait rien à voir avec la première et la deuxième génération, et vraiment, la quatrième génération a pour moi matérialisé cette cassure avec ce dont les fans de la première heure avaient l'habitude. Dans les considérations de genre, dans les considérations de relations romantiques et sexuelles, dans l'exploration du corps, dans l'exploration de différents types de choix artistiques dans les MV et dans la manière de s'exporter à l'international. Il y a des bonnes choses, il y a des très mauvaises choses, mais je pense que vraiment la quatrième génération a matérialisé le passage vers une nouvelle frontière.
En fait, pour schématiser un peu, est-ce que la quatrième génération, c'est pas une troisième génération en plus énervée, en moins bon élève, tu vois?
Je pense que c'est une métaphore qui marche. Je pense que c'est une métaphore qui marche parce qu'on sent clairement que la quatrième génération, elle a bondi comme ça, elle a jailli avec un certain nombre d'éléments qui sont relatifs à l'évolution humaine, en fait, à tous ces éléments qui ont bouleversé notre société ces derniers temps, notamment le Covid, qui a eu un impact non négligeable, autant positif comme négatif, sur les comebacks de la quatrième génération en 2020, 2021 et 2022. C'est le cas pour Stray Kids, par exemple, pour 80s aussi, pour toutes les émissions qui ont eu lieu pendant ces moments-là. Je pense à Kingdom, notamment, qui s'est fait entièrement à huis clos parce que Covid. Et je pense que, voilà, notre monde a été sujet à un certain nombre de mutations qui ont directement impacté la manière de faire de la musique. Et on n'est plus du tout dans la deuxième génération. Par contre, la quatrième en est réellement inspirée. Et bien sûr, c'est pas du tout la même génération, c'est pas du tout le même âge, mais à certains aspects, notamment chez YG, il y a pas mal de petites choses dans la quatrième et le début de la cinquième génération qui sont directement issues, en termes de thématiques et en termes d'énervement, si tu veux, des éléments de la seconde génération qui soulevaient les foules. Et je pense que la troisième génération, c'était vraiment une génération de transition qui a posé des bases que la quatrième génération est venue complètement éclater pour redistribuer les cartes et ouvrir à une cinquième génération qui a vraiment pas mal de trucs super intéressants à proposer, quoi.
Bah, on le voit, hein, la cinquième génération, c'est un peu... Je t'avais montré une vidéo là, qui parlait justement des générations de K-pop.
On la mettra dans la description parce qu'elle est super bien faite.
Ouais, elle est vraiment superbe. Et vraiment, la cinquième génération, elle est... Alors, on est en plein dans les débuts, je dirais, de la cinquième génération, où en fait, là, on a vraiment quelque chose qui en fait c'est le monde dans la K-pop, tu vois. C'est pas la K-pop s'ouvre au monde, c'est le monde qui vient dans la K-pop.
Ouais.
Et on est en plein dedans et on le voit avec des groupes comme New Jeans, qui est quand même un groupe aux sonorités très différentes.
Ouais.
Mais aussi avec des groupes comme Vicha, qui est un groupe international, on peut le dire, enfin américain même, mais coréen, tu vois, made K-pop, où en fait on arrive dans une période où le monde va rentrer dans la K-pop. Et en fait, tout ne va être que K-pop, en fait. Tu vois, et ça va être... Enfin, on a passé ce stade de la K-pop, tu vois, genre... s'internationalise. Enfin, s'internationalise, pardon. On a passé cette période. C'est terminé. C'est derrière nous. Maintenant, on est dans une autre période où vraiment, là, c'est le monde qui va faire de la K-pop. Et c'est super intéressant. Et... Ça amène des questionnements super intéressants par rapport à ça. Et de fait, moi j'ai hâte d'avoir plus de diversité dans la K-pop, et c'est bien parti. Même si, bon, à mes yeux, ça reste encore beaucoup trop calme. Mais tu vois, enfin, je suis heureux quand je vois des groupes comme... Only One Off, même si a priori c'est quand même plus la quatrième génération que la cinquième, mais tu vois, j'ai hâte qu'on arrive et qu'on se dise, ouais, genre, un tel ou une telle, c'est les premières idoles homosexuelles ouvertement, tu vois. On n'a pas encore eu ça dans les groupes. On l'a eu dans les
soloistes. Non, c'est dangereux.
Ouais, mais oui, tu vois, c'est fou. On l'a eu chez des soloistes, mais pas chez des groupes, tu vois. Moi, ouais. J'ai hâte que tu vois, chez JYP, on arrive et qu'ils disent fièrement, on a un idol qui est gay dans notre groupe, tu vois.
Ça peut être dangereux, je pense que ça n'arrivera pas. Et je pense que si JYP le fait, et c'est dégueulasse parce que je pense que ça va finir par arriver, ils vont se servir de ça comme d'un argument promotionnel.
Ouais, mais à un moment, pourquoi pas, tu vois.
Je suis pas d'accord avec ça.
Ouais, non, mais tu vois, à un moment donné, genre, même si c'est un argument promotionnel, ben en fait, le gosse de 15 piges qui va se construire en écoutant de la K-pop, bah, il aura un modèle, tu vois. Il aura quelqu'un comme lui à l'écran, littéralement un idole, tu vois, de manière littérale, qui va pouvoir, tu vois, representation matters, tu vois. C'est con, mais... Tu vois, encore une fois, ça pose des questionnements éthiques par rapport à, justement, la commercialisation et tout ça, mais je pense vraiment que, même si, effectivement, c'est utilisé par les entreprises pour des raisons financières, je pense quand même qu'en termes de message que ça peut faire passer, ça peut être intéressant, tu vois. Parce que de toute manière, Hélène, les groupes de K-pop, les agences font leur business sur la sexualité de ses membres, de leurs membres.
De toute façon, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, c'est le principe même de la K-pop et de toute l'esthétique dont on parlait au début de l'émission. De toute manière, ça va arriver. Donc, à un moment, autant que ça arrive avec des personnes différentes.
Ouais, je sais pas si je suis d'accord avec toi, je comprends l'argument que t'avances. Après, chez JYSP, ça m'étonnerait que ça arrive. Ou alors c'est déjà en train d'arriver en Soum Soum, je pense que tu vois très bien de qui je veux parler. Et...
Non.
Non, tu vois pas de qui je veux parler ?
Non,
pas. Avec Félix qui est ouvertement bisexuel ?
C'est vrai ?
Bah oui.
Comment tu sais ?
Bah c'est dit en fait.
C'est vrai.
C'est ouvertement le cas. Il a posté plusieurs photos où il porte des sacs arc-en-ciel.
Incroyable.
Sur Instagram, il a fait un message, je sais plus quand, je sais plus quel sujet, où il signe avec les trois cœurs, avec les cœurs du drapeau de la bisexualité.
Waouh, incroyable.
Il y a un live extrêmement célèbre, un fan meet où une personne lui dit c'est quoi ton type amoureux, et lui demande côté garçon ou côté nana, et il donne son type pour les deux.
Non, c'est... Attends, est-ce que c'est du coup du queerbaiting, ou c'est vraiment, tu penses, un truc sincère?
Je pense pas qu'il y a de sincérité dans la K-pop.
Ah, bien vu, mais chez lui en particulier.
Non, s'il y a une personne que je trouve insincère dans la K-pop, c'est Félix. Et il a raison, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut se protéger aussi. il faut qu'il reste une part de privé, il faut qu'il reste une part de vie, tout simplement, de vie sur laquelle il n'y a pas de contrôle. Et ils ont raison.
C'est vrai.
Ils ont raison d'un côté de prôner un côté artificiel, parce que le but, comme tu dis, c'est de faire du business sur leur sexualité ou sur ce qu'on pense de leur sexualité. Donc fort heureusement que ces idoles ne sont pas sincères. Fort heureusement que c'est pas réellement ce qui se passe. Après, voilà, je ne veux pas supposer certaines choses sur la sexualité des idoles, c'est pas là le sujet. Toujours est-il qu'il y en a certains qui font une communication, une promotion ouvertement bi.
Ouais, c'est vrai. Bah, Lily, par exemple, de NMIX.
Lily aussi, de NMIX, effectivement.
Elle a l'air d'être vraiment, pour le coup... Elle, je pense que c'est la giga-gauchiste de chez JYP.
je sais pas.
Elle, je pense que, tu vois, dans les repas de famille avec l'écurie de JYP, il y a genre la tata sérieuse un peu chrétienne qui est Gio, tu vois. Et à côté, t'as la tata lesbienne qu'elle a jamais osé assumer, Sana. Et puis devant, t'as la petite nièce Lily qui est là. Ah, tata Sana, elle est mignonne, la fille dans mon école, tu vois. C'est vraiment, il faudrait qu'on fasse un mème comme ça, avec genre l'écurie du YP et leur. Parce que vraiment, Lily avait fait pareil, elle avait fait un post pour la Pride, je crois.
Ouais.
2021, il me semble, je sais plus, 2021 ou 2022, je sais plus. 2022, ouais. Parce que 2021, elle avait pas encore débuté. Et c'est trop chou, tu vois, en mode genre, ouais, faut tous s'aimer, quoi. Et Lily, elle me fait marrer de ouf. Ouais, Lily, pour moi, c'est, voilà, je le dis, ouais, et je le répète encore une fois, t'es d'accord avec moi, meilleur vocaliste de JYP, mais aussi, à mon avis, il faut qu'elle perce, il faut que NMIX perce, c'est nécessaire, je pense. Mais Lily, elle sera la tête du mouvement, quoi, à mon avis.
Clairement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Pareil, j'ai hâte de la voir s'épanouir, parce que clairement, je sens qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup de choses à nous proposer.
Ah, beaucoup trop, même, peut-être.
Non, jamais trop.
Mais sur ces belles paroles, ma petite Hélène, je te propose qu'on s'arrête là. C'était quand même déjà presque une heure et quart, enfin même plus d'une heure et quart d'émission. C'était brouillon, parfois. Mais on a dit des trucs sympas, je pense.
Oui, tout à fait. Et j'espère que ça plaira aux personnes qui écouteront. On verra à quoi ça ressemble au montage. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va être très très drôle à monter et à écouter. Puisque c'est fait avec sincérité. Et c'est à peu près le credo de notre podcast.
C'est vrai. On peut dire de la merde, mais on dit toujours de manière sincère.
Tout à fait. Tout à fait. C'est la fin de cet épisode de la fin d'année. On espère qu'il vous aura plu et que vous serez bien détendu en notre compagnie. Il s'agit de l'avant-dernier épisode de l'année qui sera suivi par une petite cérémonie d'awards de la K-pop 2023 qu'on est en train de préparer. Vous pouvez d'ailleurs encore voter pour vos artistes préférés en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine. Bye !
Salut tout le monde !